Un texte qui est vraiment connu et tellement fort dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, on va lire ensemble dès le premier verset un épisode très fort et très particulier dans la vie de l'Église primitive. Actes chapitre 12 et dès le verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, le rayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères !» Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Quel témoignage extraordinaire. On découvre ici Pierre dans une posture et dans une situation inédite jusqu'ici. Et on va examiner quelques informations que la parole nous donne. Moi, je connaissais Pierre à la sortie de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit. Hein. Je connaissais Pierre et Jean qui, en marchant, voient un infirme de 40 ans et en le regardant, il lui adresse une parole de foi et de délivrance, de guérison. « Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, prends ton lit et marche. » On connaît ce Pierre-là. Hein. On connaît le Pierre qui regarde dans les yeux le Sanhédrin qui menace qui oblige, interdit de parler au nom de Jésus, et Pierre reste impassible, rien ne l'ébranle. Dit clairement que sa préférence sera toujours d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. On les frappe, on les menace encore et on les laisse aller quand même. Eh bien, Pierre continue son ministère. Il annonce le nom de Jésus. Quand il marche dans les rues de Jérusalem, son ombre couvrant les infirmes sont guéris. On connaît ce Pierre, On connaît ce Pierre qui arrive chez Corneille et il n'a même pas le temps de finir une prédication. Ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Quelle puissance, hein ! Mais ici, on découvre un Pierre dans une posture très différente. Et c'est la photographie que la Bible nous donne de Pierre va m'intéresser ce soir parce qu'il y a quelques indices qui vont être pour nous comme des avertissements, en même temps des encouragements, parce que Pierre enchaîné, je ne le connaissais pas. Pierre fataliste, résigné, qui accepte comme un fait déjà acquis que la fin est venue. Pierre, entre guillemets, démissionnaire, je ne le connaissais pas. Comme quoi, vous et moi, les facteurs de force et de puissance qui nous gardent debout ne proviennent pas de nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous tient debout. Amen. On n'est pas meilleur. Même lorsque Jacques mentionne le fameux Élie, le prophète, il nous dira « Élie était un homme de la même nature que nous ». Donc, on voit ici Pierre dans une posture particulière. Il y a quelque chose d'inquiétant, il y a quelque chose qui suscite dans le cœur de Dieu un sentiment d'urgence, parce qu'il y a des adverbes et certains termes qui nous montrent qu'il y a urgence. L'ange survint, l'ange frappa aux côtés Pierre, l'ange lui dit « lève-toi promptement ». Il y a quand même dans le vocabulaire qui est employé ici une réalité d'urgence. Il ne faut pas que Pierre reste longtemps dans cet état. J'aimerais vous dire que nous pouvons nous aussi, un jour ou l'autre, nous trouver dans des situations personnelles desquelles le Seigneur veut urgemment nous sortir. On peut avoir des défaillances. Vous et moi, nous en avons eu, nous en aurons peut-être encore. Mais dans la défaillance, la volonté de Dieu est de déclencher le plan d'urgence. Je peux tomber, mais Dieu ne veut pas que je reste à terre. L'Ecclésiaste au chapitre 11 va parler de l'arbre qui tombe et qui reste par terre. Heureusement, l'Écriture nous parle aussi du juste qui peut tomber, mais qui se relève toujours. Et donc, avec un sentiment d'urgence, Dieu déclenche le plan secours et l'ange intervient. Il y a une grande lumière et il se passe une succession de miracles authentiques qui vont m'intéresser dans la seconde partie de ma prédication. Mais j'aimerais quand même ne pas occulter le fait que le facteur déclencheur du plan du secours divin, c'est l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça, c'est le cœur, c'est la source initiale et originelle qui va enclenché tout un plan de secours divin parce que l'Église était mobilisée dans une prière fervente, une prière persévérante, parce qu'il est bien précisé, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il n'était plus question de défendre quelques particularismes de l'un contre l'autre. Tout ça, toutes les différences, toutes les nuances étaient fondues devant une situation prioritaire. Tous les cœurs, toutes les prières et toutes les attentes de l'Église convergeaient vers une seule réclamation. Seigneur, déploie ton secours et viens délivrer ton serviteur. Moi, je prie pour que la qualité de nos réunions de prière se développe, que nous puissions vivre quelque chose de la ferveur de l'Église que j'appelle pentecôtiste. Et pour moi, ce n'est pas une étiquette, mais ça exprime une vie spirituelle, une densité spirituelle. L'Église pentecôtiste, c'est l'Église qui, d'un revers de la main, écarte les facteurs mineurs de différence et de nuance et qui se mobilise d'un même cœur pour réclamer la démonstration de puissance divine en faveur de toutes les situations, je répète, d'urgence. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Permettez deux, trois réflexions sur ce simple verset. Je vois dans ce témoignage l'Église aimante, l'Église consciente, l'Église intelligente. Parce qu'il y a au moins trois raisons, peut-être d'autres pourraient être évoquées, trois raisons au moins que j'ai définies qui motivent cette prière commune intense de l'Église. C'est premièrement l'Église aimante. Une Église qui ne pouvait pas rester indifférente, passive, devant la situation. Ça n'est pas simplement l'amour des chrétiens pour un homme, Pierre, mais au-delà de ce serviteur de Dieu, il y avait l'œuvre de Dieu, il y avait les progrès de l'Évangile, il y avait le plan du Seigneur, et l'Église ne pouvait pas supporter d'une manière impassible que l'œuvre de Dieu soit, entre guillemets, muselé par le pouvoir politique, religieux, mais derrière ces pouvoirs-là, c'est le pouvoir ténébreux, diabolique. Vous le savez, alors que Jésus avait dit, avant de monter au ciel, « Allez !» Le diable, lui, va essayer de museler, d'enfermer. En enfermant Pierre dans une cellule, il l'empêche d'obéir à la grande commission du maître. Allez, d'ailleurs, les 17 versets qu'on a lus, le dernier verset, c'est un témoignage de victoire. Pierre sortit et s'en alla. Il y en a un qui voulait le confiner dans une cellule, l'enchaîner, le ligoter, le museler, le faire taire, le neutraliser parce qu'il était un instrument dangereux pour l'adversaire, mais c'est Jésus qui triomphe. Et c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Ça commence par un apôtre emprisonné et ça finit par un apôtre qui va, qui s'en va, qui sort. Il est libre, il est à nouveau en mouvement pour remplir son ministère. Je prie pour que ce soir, eh bien, le Seigneur me visite, te visite et nous sorte d'une situation de contrainte, de confinement intérieur. Tu te sens peut-être enserré dans ton cœur, peut-être à l'intérieur de toi, ton moral est tellement défaitiste, fataliste, acceptant d'une manière passive de subir certaines contraintes, que Dieu te visite et que celui qui est plus grand qu'un ange, à savoir le Saint-Esprit, entre dans ta prison. Amen. Que tes chaînes tombent, on va en reparler tout à l'heure. Et que de chrétiens entravés et confinés, tu redeviennes le témoin du Seigneur Jésus-Christ, le messager, la messagère joyeux, joyeuse, que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il baptise du Saint-Esprit et qu'il revient bientôt, que Dieu soit béni. L'Église aimante, passionnément aimante, aimant l'œuvre de Dieu. Je disais, l'Église consciente aussi, l'Église consciente, consciente de ses faiblesses, consciente que, confrontée au pouvoir politique et religieux, comparable à Goliath, l'Église était le petit David, consciente de ce qu'elle était à vue humaine. Mais je bénis Dieu parce que plus je suis conscient de mes limites et plus je m'accroche au Seigneur. Amen. Plus je suis conscient de ma fragilité et plus je puise par la prière dans la présence de Dieu la force qui vient d'en haut. Amen. L'histoire de l'Église le montre. Dans toutes les périodes historiques où l'Église a été flattée, a été reconnue, a été élevée sur un piédestal au niveau politique ou social, elle a perdu sa puissance. Elle a perdu sa puissance. Seigneur Jésus dira, parce que tu as peu de puissance, eh bien moi, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et pour avoir conscience de sa faiblesse, au lieu d'être un signe plutôt inquiétant, au contraire, c'est d'être objectif, réaliste, et de prendre conscience combien nous avons besoin de recevoir d'en haut la puissance du Saint-Esprit. On va en reparler tout à l'heure. Une Église consciente. Amen. Que nous soyons bien conscients de ce que nous sommes, des temps que nous vivons, de l'appel que Dieu nous adresse, conscients de ces réalités, bien conscients qu'aujourd'hui encore, mais au nom de Jésus, des malades peuvent être guéris. Amen. Conscients que devant l'autorité de ce nom suprême, les démons sont chassés, alléluia, que les montagnes sont aplanies, une Église consciente. Et puis je disais, une Église intelligente, oui, parce qu'elle a choisi de recourir à la prière. Et ça, c'est l'intelligence. Elle aurait pu choisir des stratégies, que sais-je, faire une pétition. Non, l'intelligence consiste à choisir les armes adaptées pour le type de combat qui se livre à nous. Or, le combat spirituel ne se livre qu'avec des armes spirituelles. Je prie pour que ça soit une chaudière ce soir ici. Non, on va mettre la clim. Je ne parle pas de la température physique, mais que ça soit ici ce soir une source de puissance. Que nous ayons l'intelligence de chercher par la prière et l'intercession, celui qui, à la croix, a défait le diable. Et cette victoire de Jésus, elle se concrétise sur le terrain, au quotidien, dans tous les cas particuliers. Est-ce que je vais baisser les bras devant telle situation compliquée, récurrente? Est-ce que je vais démissionner, admettre, signer un cessez-le-feu, comme cela, à l'amiable, négocier avec l'adversaire? Mais non! L'Église intelligente, elle se tourne vers son Dieu, elle réclame de son Dieu qu'il intervienne. Et quand Dieu se lève, alors on peut vivre les plus glorieuses délivrances. Que Dieu soit béni. Alors, cette introduction nous amène à considérer minutieusement la description que nous donne la Bible de Pierre. Alors, nous voyons Pierre avec des chaînes aux mains. Nous comprenons qu'il a enlevé sa ceinture. Nous comprenons qu'il s'est défait de son manteau et qu'il a aussi enlevé les sandales de ses pieds. Et pourquoi la Bible vous donne toutes ces informations? C'est sûr, il y a un enseignement. Il y a un enseignement. Et quand l'ange intervient, le frappe au côté, c'est pas très bien élevé ça, hein? Enfin, il y a urgence. Lève-toi, réveille-toi, lève-toi. Eh bien, l'ange interpelle Pierre en lui disant en substance, répare toutes ces erreurs, parce que se défaire de ses sandales, c'est une erreur. Se défaire de sa ceinture, c'est un élément de décadence. Se défaire de ton manteau, c'est un signe de déclin spirituel. Au plan spirituel, ces objets ont une portée fondamentale. La ceinture, les sandales, le manteau, et puis d'accepter des chaînes aux mains. Il serait vraiment heureux, l'adversaire, s'il parvenait à menotter les chrétiens, les empêchant totalement d'être de quelque utilité, de voler aux chrétiens les chaussures du zèle que donne l'Évangile, de frustrer les chrétiens du manteau, du revêtement de la puissance du Saint-Esprit, et de proposer mielleusement aux chrétiens des serres la ceinture, des compresses, quoi. Regarde, il y a bientôt le mois de juillet qui arrive. Tu mets tes orteils en éventail. Tu te défais de la ceinture, quand même. Il faut être sage, quand même. Hein? Quand c'est le diable qui nous propose d'être sage, il vaut mieux dresser les oreilles et être vigilant. La ceinture, j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois en arrière, de prêcher sur ce sujet. La ceinture est en lien direct, frères et sœurs, avec deux réalités. Le travail et le combat. Le travail et le combat. On se saignait de la ceinture le matin quand on allait au travail. Et même, on accrochait à la ceinture les outils qui allaient nous permettre d'effectuer notre travail. Écoutez, il y a bientôt les vacances et voici que je vais vous inviter à travailler. À travailler pour le Seigneur, à ne pas vous défaire de cette motivation tellement prioritaire. Chaque jour, à travers une circonstance, une rencontre d'apparence anodine, Dieu peut être là, faisant concourir des circonstances afin que nous travaillions au salut d'une âme. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion déjà de vous partager ce témoignage. C'était dans le Puy de Dôme à Châtel-Guyon. Un couple faisait une cure. Et il y avait bien sûr pas mal de résidents, de curistes. Et le matin, dans la boutique, lui arrive pour acheter le journal, le quotidien. Au moment où il prend, un autre curiste met la main sur le même journal. Et là, ils font connaissance. Et ils font connaissance. Et il s'avère que l'autre était un chrétien de l'église de Toulouse. Il faisait avec sa femme une cure. Et lui était un pauvre homme à la dérive, atteint d'un cancer au stade terminal, désespéré. Son foyer était à la veille d'imploser. Et alors ils font connaissance. Et le chrétien, très rapidement, s'aperçoit qu'il y a un drame qui se joue et il apporte la bonne nouvelle. Je connais quelqu'un qui peut intervenir. monsieur, dans votre situation. La cure se termine, ce couple rentre, ils habitaient vers le Puy-en-Velay. Un mardi matin, je prends le courrier de l'église et je trouve leur carte où ils me demandent un rendez-vous. Quelques semaines après, ils se convertissent et j'ai la joie de baptiser monsieur et madame. Guéri de son cancer, délivré de 2 paquets de cigarettes, des gitanes maïs à l'époque, je ne sais pas, ça existe toujours. Ça. Ses collègues l'avaient surnommé Mégo, délivré de tout cela, changé, transformé. Le jour de prendre son baptême, son épouse dit « Mon mari était un lion furieux, c'est devenu un agneau paisible, Dieu l'a transformé. » Et ça a commencé par 2 curistes qui vont acheter un journal un matin. Ça commence comme ça. Mais derrière cela, il y a l'intention divine d'utiliser. Dieu veut utiliser. La ceinture nous parle du service utile. Et Dieu veut faire de nous des hommes, des femmes attentifs, utilisables, malléables, sensibles, afin que ces plans merveilleux s'accomplissent. Ne te défais pas de ta motivation de servir Dieu. La raison qui fait que Dieu nous laisse encore ici-bas, c'est qu'il a des choses à nous faire faire. Dieu a des plans et des œuvres bonnes préparées pour toi afin que tu les accomplisses. Que Dieu soit béni. Et je disais que la ceinture, eh bien, c'est aussi un ustensile qui nous parle du combat, parce que c'est là aussi qu'on accroche les armes. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans le combat de la foi. Les temps sont difficiles et nous sommes appelés à être de bons soldats, vigilants, armés, aguerris et animés de l'esprit de la victoire. Nous sommes dans ce contexte-là, ne nous défaisons pas de ces réalités. Les sandales, bien sûr, nous parlent du zèle. Ne te défais pas du zèle. Ne te défais pas de tes sandales. Remets-les si tu les as ôtées. Hein. Que le Seigneur te bénisse, t'encourage. Retrouvons le zèle que peut-être nous avions il y a quelque temps en arrière. Le zèle... Est-ce que le mot est approprié? Je ne sais pas, c'est inconsommable, c'est-à-dire que ça s'use. Le zèle, c'est une qualité formidable, mais qui s'use. Et qui a chaque fois besoin d'être rafraîchi, affûté, aiguisé, rendu et maintenu toujours efficace. Le zèle. Moi, ça ne se voit peut-être pas, mais j'étais porté vers le sport, j'aimais beaucoup le sport. Et pas mal de disciplines, notamment j'aimais beaucoup la course à pied. Et alors moi, j'étais pas un sprinter, vous voyez, mais j'étais plutôt 400 mètres, 800 mètres, et puis encore plus. Ouais, plus c'était long, pour moi, c'est plus ça correspondait. Hein. Et quand on était en course comme ça, à un moment donné de la course, je me disais, tu n'y arriveras jamais. Parce que j'étais épuisé. J'arrivais pas à lever mes genoux et j'avais des points de côté, j'étais vraiment... Et puis un phénomène, et Dieu nous a créés d'une manière merveilleuse, un phénomène se produisait qu'on appelle le second souffle. Je sais pas, d'un coup, il y a un rafraîchissement qui me remplissait, quoi. Et mes foulées s'allongeaient encore et j'avais envie de courir. Le second souffle. Alors peut-être que tes genoux sont alourdis un peu. Peut-être que ton souffle devient irrégulier et haletant. Tu as peut-être l'impression que tu n'arriveras jamais à achever ta course. L'apôtre Paul disait, j'ai achevé la course. Mais c'est facile à dire. Mais quand on y est dans la course, on a besoin du second souffle. Et tu as besoin peut-être du second souffle ce soir. C'est étonnant. Chaque fois que ça se produisait, je disais, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je me remettais à courir. Eh bien, ce que le Créateur a établi dans notre fonctionnement, je dirais, physiologique, ben, il peut le faire Mais il l'a fait tant de fois déjà. Au niveau spirituel, ta foi peut vivre un second souffle. Et ton zèle dont tu t'es peut-être défait parce que finalement le père du mensonge a réussi à te convaincre que ça ne sert à rien de témoigner, personne ne se convertit, les temps maintenant sont tellement difficiles, et bien le Saint-Esprit visitant ton cœur va donner à ta foi un second souffle, remets les chaussures à tes pieds, que Dieu soit béni, et puis remets aussi ton manteau, et le manteau, je le disais, nous parle du revêtement, la puissance du Saint-Esprit. Le monde en perdition a tellement besoin que les chrétiens authentiques puissent avoir cette dimension surnaturelle. Le revêtement du Saint-Esprit va nous donner d'exprimer des paroles, des dons spirituels, paroles de sagesse, paroles de connaissance, paroles de foi. On n'est plus dans les limites humaines, on est revêtu du Saint-Esprit. Combien de fois est-il dit « Étienne rempli du Saint-Esprit », « Pierre rempli du Saint-Esprit ». Ils étaient remplis du Saint-Esprit, pas pour eux, mais dans le but de leur donner une dimension divine dans les paroles qui sortaient de leur bouche. Moi, je n'ai pas envie, d'ailleurs, j'accepte rarement ces invitations à échanger et à débattre sur des thématiques, parce qu'au bout, c'est stérile, ça ne sert à rien. On n'est pas appelé à être des débatteurs, mais on est appelé à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et à regarder quelqu'un dans les yeux et à lui adresser une parole de connaissance. Madame, j'ai à cœur de vous dire ceci. Waouh, ça vient percuter le cœur. C'est pas rationnel, c'est pas explicable, c'est divin et c'est possible si je suis revêtu du manteau de la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. J'en termine avant que nous chantions ce petit cœur et que nous prions le Seigneur. Je termine parce que finalement, un élément très fort qui vient marquer ce récit, c'est aussi le suivant, l'ouverture des portes. L'ouverture des portes. La porte de la prison s'ouvre d'elle-même. Et puis, la grande porte de fer qui donne accès à la ville s'ouvre d'elle-même. Moi, je prie pour que la porte de fer d'Aubagne s'ouvre, hein, et que l'évangile puisse entrer. Alléluia, l'apôtre Paul disait en parlant de la ville d'Éphèse qui était pourtant vouée à la déesse Diane, etc. Paul disait, une porte d'un accès facile nous est ouverte et à Éphèse, Dieu a manifesté sa puissance. Même s'il y a une concentration d'incrédulité, d'occultisme, de ténèbres, mais quand c'est Dieu qui ouvre la porte de fer, eh bien la porte de fer, elle ne peut que s'ouvrir. Que Dieu soit béni. Amen. Moi, je constate que la porte qui a été la plus difficile à ouvrir, c'est celle de l'église. Parce que Pierre arrive, il tape à la porte de l'église, et il y avait des chrétiens qui demandaient au Seigneur, « Seigneur, viens délivrer ton serviteur. » Et le serviteur délivré était en train de frapper à la porte. La servante leur dit, « C'est Pierre qui est là. » Et ils lui disent, « Mais tu es folle. » Vous voyez comme quoi on peut faire des belles prières. Hein. Et quand ça arrive, on est en décalage. Étonnant, étonnant. Vous voyez, je me prêche, vous savez. Et j'aimerais ne pas être en décalage entre mes prières et l'exaucement de mes prières, que je puisse simplement bénir le Seigneur. Il frappe encore. Elle a mis longtemps à s'ouvrir cette porte de l'église, mais elle a fini par s'ouvrir. Que la porte de notre église ne soit pas grippée et qu'elle n'ait pas de la difficulté à s'ouvrir. Il faut que l'église que nous constituons ensemble soit une église d'un accès facile pour les malheureux, les gens perdus, et il y en a énormément. Et nous voulons être cette église-là, gloire à Dieu. Je prie pour que la réputation de l'église d'Aubagne, ça soit la réputation d'une église où il fait bon venir, recevant la bénédiction, l'encouragement, la parole de Dieu prêchée et qui apporte une nourriture et les trésors du royaume des cieux. Que notre église ne soit pas une église difficile à s'ouvrir à la détresse environnante. Nous sommes appelés à accueillir. Jésus les accueillit, nous dit la Bible. Jésus les accueillit. Les disciples lui disent « Renvoie !» et Jésus accueille. Ils ne sont pas vraiment en phase avec la volonté et avec les intentions du Seigneur. Que Dieu nous aide. Alléluia. On va prier le